Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Il nous fait plaisir de vous accueillir ce soir pour notre deuxième soirée Récit Tokyo 2020 aux Jeux paralympiques présentée par l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice, bien connue sous le nom de l'AQMSE. Ce soir, nous recevons Dr. Andréanne Bourgeois et Dr. Philippe Gariepy qui ont participé aux récents Jeux paralympiques d'été à Tokyo en août 2021. On invite les téléspectateurs à ouvrir votre caméra si vous le voulez bien, mais à garder votre micro fermé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans le clavardage en bas à droite, puis nous prendrons 15 minutes à la fin de la conférence pour répondre à vos questions. On va enregistrer l'événement pour que les gens qui n'ont pas eu la chance d'y assister puissent l'écouter en différé un peu plus tard. Mon co-animateur pour ce soir sera nul autre que Philippe Brochu, résident en médecine familiale à l'Université Laval, le triathlète le plus rapide de Montcalm.
Bonsoir tout le monde, merci pour la présentation, Alex. Donc, pour compléter le duo, me fait plaisir de vous présenter notre second co-animateur, Monsieur Alexandre Lavigne, qui est actuellement résident en physiatrie à l'Université de Montréal et partiellement aussi directeur des communications à l'AQMSE. Donc, je vais commencer par vous présenter rapidement, sans trop spoiler l'information, Dr. Andréanne Bourgeois, notre premier médecin invité, qui, en plus de sa formation en médecine familiale et en médecine sportive, Dr. Bourgeois est aussi titulaire d'un baccalauréat en ergothérapie. Fort de cette polyvalence, elle travaille depuis 2014 auprès des équipes de volleyball, de rugby, de football des Carabins de l'Université de Montréal, ainsi que de l'équipe du frisbee du Royal de Montréal. Dr. Bourgeois est impliqué depuis plusieurs années auprès des athlètes paralympiques, dont l'équipe canadienne de natation. À travers son horaire chargé, Dr. Bourgeois participe également à l'enseignement en locomoteur auprès des résidents de l'UMF Notre-Dame. Bon, je peux presque vous entendre souffler à travers votre micro. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est effectivement un programme très chargé.
Laissez-moi maintenant vous présenter notre deuxième invité. Dr. Philippe Gariepy est diplômé en médecine sportive de l'Académie canadienne de médecine du sport et de l'exercice. Il travaille en médecine d'urgence à l'hôpital de Granby, en plus d'être professeur d'enseignement clinique pour l'Université de Sherbrooke. En parallèle, il est médecin de l'équipe canadienne de paracyclisme depuis 2013. Il a travaillé à plusieurs grands événements sportifs, dont les Jeux panaméricains de Toronto en 2015 et les Jeux paralympiques de Rio en 2016 et de Tokyo en 2021.
Donc, un gros merci, Dr. Bourgeois et Dr. Gariepy, d'être avec nous ce soir. C'est franchement apprécié. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer avec des questions plutôt standards, questions qui vous permettent de parler un peu de votre parcours et un peu de tout ce qui vous semble pertinent.
D'accord.
Donc, comme on avait expliqué un petit peu plus tôt, là, vous pourrez vous alterner la personne qui commence à répondre aux questions afin que ce soit assez fluide.
Comme on dit, les dames d'abord. Donc, docteur Bourgeois, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours académique professionnel? En fait, un peu, qu'est-ce qui vous a mené vers la médecine sportive?
En fait, c'est plus les intérêts personnels, là. Je pense que j'ai toujours été un peu dans le vouloir faire du sport. J'ai fait beaucoup de sport secondaire, cégep. Fait que pour moi, c'était normal de continuer dans ce volet-là par la suite. Comme ergothérapeute, je m'étais impliquée aussi auprès de... J'avais commencé à faire de la classification pour le rugby en fauteuil roulant. Fait que je trouvais que c'était une belle façon de pour les gens qui se retrouvaient avec un nouvel handicap de commencer le sport, de se retrouver avec un groupe un peu social aussi qui leur permettait de sortir de la vie d'handicapés, de leur redonner un peu de contrôle sur leur vie. Fait que je m'étais impliquée un peu là-dedans. Donc, pour moi, ça a été normal quand j'étais allée en médecine de continuer un peu dans ce domaine-là, dans ce suivi-là pour continuer à avoir avec cet intérêt-là que j'avais là.
J'ai un parcours un peu moins intéressant, donc c'est une blague. J'ai fait une formation c'est un bac qui s'appelle Exercise Science à Concordia, qui forme beaucoup de thérapeutes athlétiques. J'ai fait quelques cours de ce côté-là, mais j'étais un petit peu plus de côté recherche du programme. Et après ça, en médecine, ben, je me suis dirigé. Bon, j'ai toujours eu un intérêt sur le musculo-squelettique. Je pense que je n'étais même pas en Exercise Science. Je lisais le Physician and Sports Medicine de façon régulière. Et en médecine, après ma médecine, j'ai fait surtout de l'urgence pendant plusieurs années. Puis en 2009, j'ai voulu rajouter une corde à mon arc. J'ai dit, je vais retourner un petit peu à mes amours de la médecine sportive. Et puis, j'ai fait mon certificat. Puis, depuis ce temps-là, ben, je mélange ma pratique. Maintenant, c'est rendu un petit peu plus médecine sportive, musculo-squelettique, un peu de GMF. Et l'urgence, ça s'achève bientôt.
Super, c'est intéressant. Puis, pouvez-vous nous parler là, dans un autre ordre d'idée un peu de c'est à quel moment dans votre carrière que vous avez commencé à couvrir des événements sportifs ou à travailler avec des équipes?
Je l'ai toujours fait un petit peu. Je me rappelle, j'étais sauveteur au glissoir d'eau à Bromont, puis il y avait souvent des compétitions de vélo. Je me rappelle d'être sur le bord de la piste de descente. Par après, ça a été des courses de vélo aussi régionales. J'en faisais un peu ici et là, puis j'ai été de la première mouture du Ironman à Mont-Tremblant, puis je suis avec l'équipe nationale de paracyclisme depuis 2013.
En fait, moi, la couverture d'événements comme tel, je peux dire que c'est plus au niveau de la résidence. J'ai fait le stage, j'ai réussi à avoir le stage d'option au CEPSUM, fait que j'avais commencé un peu la couverture au niveau des games de foot, des carabins. Puis de fil en aiguille, en fait, c'est que je suis restée. Il y a une ouverture qui s'est faite à ce moment-là au niveau du CEPSUM. Fait que c'est un peu avec eux que j'ai continué à faire beaucoup couverture des matchs de foot, couverture de parties aussi dans ce contexte-là, dès la résidence, en fait, surtout.
Puis vous nous parliez que vous aviez là, déjà eu un intérêt pour les gens qui avaient, entre autres, les blessés médulaires en fauteuil roulant pendant votre formation en ergothérapie. Est-ce que ça a pris du temps avant que vous recommenciez à travailler avec ce genre de clientèle dans le contexte de la médecine du sport?
Dans le contexte de la médecine du sport, oui. C'est ça, avec la résidence, avec la vie, j'ai manqué un peu plus de temps dans les débuts de pratique. Mais mes premières années de pratique, en fait, j'étais en médecine de réadaptation. Fait que c'est sûr que tous les gens avec handicap, je travaillais avec ce type de clientèle-là, mais moins au niveau sportif. À ce moment-là, j'étais plus dans la couverture médicale lors de leur début de réadaptation. Fait que j'étais restée toujours en contact, par exemple, avec des amis qui en faisaient. Puis c'est un peu, je pense, avec cette expertise-là que Dr. Leclerc m'avait approché quand il y a eu une ouverture à l'INS pour la couverture du parasport. Fait que rugby en fauteuil, en fait, c'est pas que des blessures à la moelle épinière, c'est beaucoup ce type de clientèle-là qu'on retrouve, mais il y a d'autres types de patients, de gens avec des handicaps, en fait, qu'on peut retrouver. Mais oui, c'était là que j'avais commencé plus le suivi pour le parasport, puis ça s'est développé par la suite dans d'autres types de conditions, d'autres types de sports, en fait. Je m'occupe maintenant de paranatation, qui ont une variété de très différentes de types d'athlètes, puis je suis aussi le médecin de l'équipe de Boccia à Montréal.
Super, merci beaucoup.
Pour ceux qui ne savent pas, pouvez-vous nous dire c'est quoi l'équipe de Boccia?
Il faudrait pas qu'ils me voient. C'est un peu qu'ils veulent regarder. En fait, il y a eu des beaux vidéos qui ont été faites à Tokyo. On avait une des championnes en titre qui était là, malheureusement, qui n'a pas tout à fait performé à la hauteur des attentes. La meilleure façon pour moi de le décrire, c'est un peu comme la pétanque pour des gens qui ont un handicap physique un peu plus important. Fait qu'en très bref résumé, mais je pense d'aller voir, ça peut être intéressant aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Là.
Super. Merci beaucoup, Dr. Bourgeois, pour la réponse. En fait, on comprend bien d'où vient votre intérêt pour les parasports, là, avec notamment votre bac en ergothérapie. Dr. Gariepi, en fait, vous, d'où vient votre intérêt pour les parasports en général?
En fait, c'est un concours de circonstances. En 2013, Cyclisme Canada cherchait un nouveau médecin pour leur équipe de paracyclisme. Puis le programme est basé à Bromont. Je demeure à Bromont. Et je faisais affaire avec la clinique de physio à Bromont, dont une des physios était l'épouse de l'assistant coach de l'équipe nationale. Donc, le bouche à oreille a fait qu'on dit, il est pas loin, ça va être pratique. Donc, ils m'ont rencontré, puis j'ai dit, OK, on y va. Surtout que sachant, quand on regarde un petit peu dans les réunions et tout ça, d'être médecin d'une équipe nationale, c'est pas si facile que ça de dire « Hey, moi, je vais être médecin de l'équipe nationale X, bonjour. » Je pense que souvent, c'est des concours de circonstances ou une implication X qui fait qu'à un moment donné, tu y vas et t'es appelé. Pour ce qui est de la clientèle para dans la vie de tous les jours, je dirais ceux que j'ai, les parents que j'ai vus paraplégiques, ça a été plus souvent à l'urgence que nécessairement dans ma clientèle de médecine sportive. Je dirais que c'est plutôt rare. J'ai un confrère à Granby qui avait une athlète qui était en athlétisme, qui l'a déjà vu, mais c'était pas très, c'est pas très fréquent qu'on va retrouver cette clientèle-là au jour le jour.
Personnellement, j'en vois peut-être un petit peu plus. C'est sûr que moi, le centre d'entraînement, le centre de haute performance de paranatation est basé à Montréal. Donc, dès qu'ils ont un problème médical d'un quelconque ordre, en fait, c'est plus vers moi qu'ils vont diriger pour prendre rendez-vous. Un peu comme tous les athlètes de haute performance qui se trouvent dans un centre, ben, ils vont venir à ce moment-là. C'est sûr que les athlètes parents, il y en a certains qui peuvent pas dire qu'ils sont moins confortables, mais je sais que Dr. Leclerc à l'INS, ce qu'on avait discuté, c'est qu'on essayait de les diriger dans la mesure du possible un petit peu plus vers moi, compte tenu de l'expérience que j'avais un petit peu plus. Fait que j'en ai peut-être vu un petit peu plus dans ce contexte-là, mais des fois, ça peut être seulement aussi des pré-saisons ou autres pour différents sports qui avaient des camps d'entraînement à Montréal à ce moment-là. Mais c'est plus mon équipe qui est basée à Montréal que je vais voir un petit peu plus souvent dans ce contexte-là. Là.
Ben oui, super, ça fait du sens. Puis concrètement, Dr. Bourgeois, le centre comme tel, c'est près du stade olympique?
C'est au stade directement.
C'est au stade, OK.
Oui, les athlètes, paranatation, je pense qu'on avait, à Tokyo, on avait une délégation de 19 athlètes, puis il y en avait 6 qui s'entraînent à temps plein à Montréal. On rentre un peu plus dans la natation, là, mais natation, ça reste un sport individuel. Fait qu'il y a des sports de haut niveau où l'équipe va se rassembler à un endroit. Tu sais, je pense à Montréal, à l'INS, on a natation synchro où ils n'ont pas le choix de s'entraîner en tout temps ensemble. Natation, ben, restant un sport individuel, la plupart des gens vont rester dans leur club individuel, avoir des camps d'entraînement, avoir des compétitions ensemble de temps en temps. C'est sûr que dans les dernières années, il y en a eu un petit peu moins. Je pense, Philippe, vous fonctionnez un petit peu plus comme ça en termes d'avoir des entraînements ensemble, des camps, mais pas d'entraînement comme tel. Par contre, Paranatation avait décidé de développer un centre de haute performance. Puis de par la facilité des installations à Montréal, je pense que c'est pour ça qu'ils avaient décidé de l'installer à Montréal. Le pendant olympique se retrouve à Il y en a quelques-uns, les centres de haute performance, mais il y en avait un à Victoria aussi qui a fermé. Il y en avait d'autres à différents moments, mais le plus gros étant effectivement à Toronto, qui est le club où Penny, ben, tout le monde, en fait, les athlètes olympiques se sont retrouvés dans le contexte de la fermeture de beaucoup de centres. Le pendant paralympique était à Montréal. Fait que je pense, présentement, avec la Next Gen, je pense que je me retrouve avec 12 athlètes en paranatation à Montréal.
Quand vous dites allez-y.
Non, ben le coaching est un peu centralisé à Bromont. On a un coach Next Gen dans l'Ouest. Quand on a notre groupe de haute performance à réunir dans l'Ouest, ben, ces coachs-là, ils peuvent s'organiser de leur coin, pays. Et nous, on va couvrir un petit peu plus l'Ontario jusqu'au Nouveau-Brunswick pour faire des camps plus souvent qu'autrement à Bromont. On couvre des. Mon équipe, hein, j'ai des appels, j'ai des petites choses à gérer un peu partout au Canada.
Et vous, Dr. Bourgeois, quand vous dites que vous occupez là, de 10-12 athlètes, entre autres en paranatation, là, question un peu plus pratico-pratique, à quelle fréquence vous travaillez avec eux ou est-ce que vous allez avoir seulement des rendez-vous sporadiques quand ils ont des blessures ou comment vous fonctionnez?
Un peu des deux. C'est sûr qu'on a des réunions de l'équipe de soutien. Ça s'était condensé un peu avant les Jeux. On était aux 2 semaines pour s'assurer que tout le monde était optimal, voir si on avait des choses à vérifier par athlète. Sinon, en général, c'est des réunions une fois par mois pour l'équipe intégrée de soutien. Je sais que ça va être une question plus tard, là, mais tu sais, dans l'équipe, on a une physiologiste, une physio, nutritionniste, psy, préparatrice mentale, on a un biostatisticien aussi pour s'assurer au niveau de natation, les coachs aussi bien sûr, ça c'est vraiment juste pour l'équipe à Montréal. Fait que pour les athlètes comme tels, les rendez-vous vont vraiment être plus sporadiques à ce moment-là qu'on va avoir s'ils ont des problèmes particuliers. Des fois, c'est plus le coach qui les encourage à me contacter pour qu'on se voit, qui vont, comme n'importe quel athlète, dire « ben non, ça peut attendre ». Mais sinon, c'est très, très dépendant. T'sais, j'ai en tête un athlète que je le vois au pré-saison parce qu'il n'y a jamais rien, versus d'autres avec des problèmes de santé qui vont être un peu plus difficile à gérer ou je vais aller voir plus souvent à ce moment-là ou juste une belle otite de baigneur qu'on va retrouver chez mes nageurs. Fait que c'est vraiment très dépendant de ce qui se passe là.
Super, excellent. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment vous avez été sélectionné pour faire partie de l'équipe médicale aux Jeux paralympiques de Tokyo? Si vous voulez commencer, docteur Gariepi.
En fait, de façon générale, pour ce qui est tout ce qui a été jeux parents où j'ai participé, c'est que le cyclisme est quand même un sport à risque. Donc, de façon générale, il aime bien avoir le médecin de l'équipe qui s'y rend et qui pourrait, là, comme aux Jeux panaméricains, j'étais quand même membre du noyau de médecins, là, j'aurais été, bon, ça n'a pas à donner, mais j'aurais pu superviser d'autres sports. Mais de façon générale, il aime bien avoir quelqu'un. Puis en plus, il y a une espèce de petit balai d'organisation. Quand tu n'es pas habitué, tu peux te sentir un petit peu à l'extérieur et pas savoir ce qui se passe. Donc, je pense que le petit côté pratique de jour le jour. Donc, de façon générale, il y a tout le temps une accréditation pour le médecin de l'équipe de vélo. En tout cas, les dernières fois, là, à Rio aussi, il y avait quelqu'un pour la paranatation. Il y avait, je pense que cette fois-ci, il y avait une physiante qui était avec l'équipe d'athlétisme, si je ne me trompe pas. Puis sinon, il y avait un groupe de médecins là, qui était dédié à la clinique au village et puis se séparait les sports selon les besoins.
Puis juste pour bien comprendre, là, dans le contexte de votre sélection au grand jeu, est-ce qu'il fallait poser votre candidature pour vous rendre là ou c'était seulement la suite logique étant donné que vous aviez déjà là, suivi l'équipe de paracyclistes pendant toutes les années? C'était déjà sûr que ça allait être vous qui allait être présent à Tokyo?
Oui, c'était un peu la suite logique. C'est pas. J'ai été chef médical pour les Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires en 2018. Puis cette fois-là, ben, j'avais fait la demande pour participer, plus pour me manifester, pour dire hey, moi j'aimerais ça faire ça. Puis finalement, j'ai été sélectionné. Bon, j'ai dit ben merci, je vais y aller. Mais pour ce qui est du vélo, là, c'est souvent la suite logique. Là, ma sélection est coulée dans le béton quand même. Assez, c'est ça. C'est pas mal clair.
Mais je pense, Philippe, vous étiez aussi à l'extérieur du village.
Oui, bien sûr.
Ouais, sport de contact à l'extérieur du village, donc les probabilités d'avoir, tu sais, que ce soit toi, c'était sûr, mais d'avoir un médecin en plus, juste du fait que vous étiez à l'extérieur, puis c'est un sport à risque, je pense qu'il y avait ça aussi qui renforçait.
Ouais, ben, oui, ça, en fait, ça rajoutait, puis il y a même un moment donné qu'il fallait possiblement que je me trouve un assistant ou un autre médecin, parce qu'en fait, on était sur deux sites, on a voyagé entre deux sites, là, après la partie piste, on est allé à un autre endroit pour la partie route. Oui, c'est sûr que de ce côté-là, il y avait un petit plus à m'avoir parce que j'étais comme la délégation médicale canadienne pour dans ces sites externes-là. J'étais le COVID liaison officer. Donc, je supervisais tout ce qu'il y avait testing puis être sûr que les résultats, que tout le monde faisait ses tests, etc. Là, donc, ça, j'étais responsable de ça parce que j'étais le seul médecin dans le coin avec l'équipe.
Et vous, Dr Beauchois, à quoi ressemblait le processus de sélection pour aller à Tokyo?
En fait, moi, j'ai été engagée par Natation Canada pour s'occuper de l'équipe médicale comme médecin d'équipe en 2019. Fait qu'eux, c'est sûr que leur but, c'était d'amener quelqu'un. Je dirais que ça a été un peu différent comme processus parce que c'est sûr que natation n'est pas un sport aussi à risque que cycliste. Par contre, natation a une grosse délégation et Moi, ce que j'ai compris, c'est aussi le potentiel de médaille pouvait avoir un impact sur le médecin qui amenait. Et natation étant un sport quand même qui performe assez bien, c'est l'équipe de gestionnaires, en fait, de natation qui ont soumis ma candidature pour le corps médical.
Donc, si je comprends bien, vous dites s'il y a plus de chances de médaille, c'est eux, ben c'est la fédération qui ont plus leur mot à dire finalement sur le médecin qui amène, ou c'est comme ils amènent leur médecin finalement?
Ben, d'une certaine façon, ils ont un peu plus leur mot à dire. Ce que j'ai compris, en fait, là, ça reste, je vais pas dire politique, mais ça reste, c'est sûr que plus le sport a une grosse délégation, plus il est reconnu, ben, ils ont aussi plus d'accréditation pour le village. Fait que c'est là où ils peuvent aussi répartir les accréditations qu'ils veulent au sein de leur équipe. Fait que c'est là aussi où ça a un impact sur le nombre de personnes que chaque équipe peut amener. T'sais, de natation, ils peuvent décider d'amener X nombre de coachs. Leur équipe de soutien, on avait une masso, on avait un physio. Fait que c'est là aussi où ils ont un nombre d'accréditations par sport. Qui est, oui, une partie déterminée par la grosseur, mais le potentiel de médaille semble avoir quand même un léger impact par rapport à ça. Puis c'est ça, en travaillant avec natation, ben eux priorisent beaucoup d'amener leur médecin dans la mesure du possible. Fait que c'est comme ça qu'ils m'ont nominé pour les accréditations au niveau du village.
Super, super, ça fait du sens. Excellent. Écoutez, si on continue un peu dans la même veine, Dr. Garipi, vous avez parlé des tests COVID. Maintenant, en quoi la COVID a impacté votre expérience finalement aux Jeux paralympiques? De ce que je comprends, vous avez aussi été médecin sur d'autres grands Jeux. Donc, comment vous avez vu cette nouvelle élément finalement?
En fait, quand les gens me demandent comment ça a été à Tokyo, je disais, pour nous, comme on était à l'extérieur de Tokyo, c'était pas mal comme nos championnats mondiaux de vélo. C'était... les mêmes groupes, le même fonctionnement. Au lieu d'avoir, on avait les compétitions de piste, après ça, compétitions de route, c'est pas mal les mêmes éléments qui vont se transférer. On restait dans différents hôtels, puis il fallait respecter, on prenait nos températures avant de rentrer à la cafétéria, on portait nos masques pas mal tout le temps, que ce soit à l'extérieur. Puis il y avait bon de se promener le matin avec mon petit cabaret puis ramasser les petits tubes de salive de tout le monde, puis après ça aller porter ça pour les faire analyser. Ça a été pas mal ça, mais je dirais que ce qui a changé, ben c'est les mesures sanitaires qu'on devait suivre, puis ça c'était comme on le faisait un petit peu partout. C'était plus disons les remises de médailles que vous avez vues à la télévision, que les gens prenaient leurs médailles, ça a été ça. Mais pour ce qui est du fonctionnement, ça a été quand même assez bien. On ne peut pas dire qu'il y a eu des grandes entraves ou des choses qui ont été tellement différentes de nos compétitions habituelles. Là. À peu de choses près.
Est-ce que ça arrivait des fois là, qu'il y avait des athlètes qui avaient des symptômes compatibles avec la COVID qui devaient rester là, sur les lignes de terrain et qui ne pouvaient pas compétitionner?
Ben nous, dans mon groupe, j'en ai pas eu. J'ai pas eu vent de cas pour les autres nations. On a eu vent d'un cas de doping. C'est à peu près ça pour une équipe polonaise, pour ne pas la nommer. Mais sinon, on n'a pas rien eu de ce côté-là. Puis j'ai pas. C'est des gens que moi, ça fait 8 ans que je suis là, donc. Les coachs, plusieurs coachs d'autres nations ou de support staff, c'est du monde que je vois et je revois. Là, on se connaît peut-être pas intimement, mais qu'on se salue. Puis c'était pas mal les mêmes groupes habituels là, qu'on croise.
Puis vous, Dr Bourgeois, est-ce que les gens avaient peur de d'être contaminés par des virus, que ce soit là, dans les milieux aquatiques ou dans les autres sports que vous avez couverts? Ou...
Ben, en fait, tu sais, moi, j'étais que avec la natation parce que c'était tellement exigeant en termes de temps. C'est sûr que les athlètes, ben masques, sur le bord de la piscine, il y a des limites à ce qu'on est capable de porter. Je dirais que c'est sûr que certains pays qu'on essayait de passer un petit peu plus loin quand on les croisait sur le bord de la piscine, donc les coachs étaient supposés mettre le masque en tout temps sur le bord de l'eau. Bah, c'était pas nécessairement très appliqué. Donc, est-ce que ça l'a changé? Ben, ça reste dur à dire. Moi, c'était les premiers, fait que c'est un petit peu plus difficile. Est-ce que ça a eu un impact comme tel? Ben, moi, je me demande au niveau de la préparation avant, fait que les gens étaient tellement contents que ça se produise. Donc, ils étaient prêts à accepter certaines mesures qu'ils pouvaient juger un peu plus drastiques que ce qu'on avait ici, par exemple, à Montréal. Donc, c'est un peu dur à dire l'impact dans le contexte. On est habitué de porter un masque. Je dirais que c'est une des différences d'avoir à le porter en tout temps à l'extérieur aussi. C'était quand même un peu particulier. Ça fait moins d'années que je suis dans le sport. Fait qu'il y avait des choses qui étaient quand même, tu sais, moins de contact. Je sais que pour un de mes coachs, qui a beaucoup d'amis, disons, australiens ou autres, les Australiens n'avaient pas le droit du tout d'aller à la cafétéria. Il y avait un traiteur qui venait dans leur building. Fait qu'il y avait certaines différences par rapport justement au fait de rencontrer d'autres nations, de parler avec d'autres pays. C'était quand même toujours un petit peu drôle parce qu'il n'y avait pas le droit d'aller à la cafétéria, mais ils se parlaient continuellement sur des terrains de compétition. Fait que ça restait un peu, je veux pas dire des façons de détourner, de contourner ça un peu, mais je pense que les gens avec qui se connaissaient, qui voulaient se parler, arrivaient à le faire quand même. Mais c'est sûr qu'il y avait un peu moins de mélange de nations que ce que j'aurais pu m'attendre, disons, dans d'autres, à d'autres moments. Je pense que c'est ça. Je pense que les gens étaient tellement contents que ça se produise que je pense que tout le monde était prêt à passer par-dessus ça.
Excellent. C'est intéressant. Maintenant, pourriez-vous nous décrire un petit peu c'était quoi une journée typique aux Jeux paralympiques? Exemple, là, l'heure à laquelle commence la journée, est-ce que vous deviez aller à une clinique ou c'était directement dans les stades de compétition, ainsi de suite?
Andréane?
Ouais. natation, en fait, contrairement aux Jeux olympiques qui avaient interchangé l'horaire pour se mettre à l'heure de nord-américaine pour la télé. Pour la télé, nous, on est resté sur l'horaire de compétition usuel, à savoir que le matin, c'est les courses préliminaires. Ceux qui font les finales vont refaire les courses en soirée. Fait que je dirais qu'en moi, ça dépendait un peu des athlètes qui compétitionnaient, mais en général, entre, je dirais, 7 et 8 heures, il y avait un départ pour la piscine. On revenait, nous, on avait des navettes à prendre pour se rendre à la piscine. Fait que souvent, on se rendait, ceux qui voulaient déjeuner, se rendaient au dining hall, qui les navettes étaient juste à côté. On partait pour la piscine, j'essayais d'arriver dans les débuts des échauffements de mes premiers athlètes. Puis on partait vers, je dirais, entre 11h30, midi et demi pour revenir au village, manger, dormir ou s'entraîner en fonction de ce qu'on avait le temps de faire. Puis on repartait pour la piscine autour de 4 heures. Souvent, dans cette période, sur l'heure du dîner, moi, j'avais certains athlètes. En fait, ce que Dr. Garipi mentionnait, c'est que ça nous prenait un test COVID à tous les jours. C'est un test salivaire, par contre, qu'on devrait remettre. Moi, j'ai eu la chance, natation avait décidé d'amener quelqu'un pour s'occuper de la collecte, fait que j'avais pas à ramasser les paquets de salive de tous les gens de mon équipe, qu'on était quand même une trentaine, fait que j'étais bien contente de ne pas avoir à gérer ces petits pots. Mais j'avais des athlètes, de par leurs conditions, de par leurs préférences, préféraient avoir un test nasopharyngé. Donc, souvent, sur l'heure du dîner, on se donnait rendez-vous à la clinique médicale sur site pour faire le test. À ce moment-là, fait que moi j'avais être disponible. Souvent, c'est les athlètes avec quelque chose, soit une condition ou autre, ils me demandaient un rendez-vous à ce moment-là. Souvent, ils communiquaient avec moi, fait que je les voyais à ce moment-là. Puis on retournait vers la piscine, je dirais vers 4-5 heures, les courses commençant vers 6 heures, puis le retour était quelque part entre 9 et 11 heures pour le retour à l'hôtel. Fait que ça ressemblait pas mal à ça, moi, mes journées pour les journées de compétition. Là.
J'avais un horaire plutôt allégé. J'ai déjà vécu pire que ça. Pas pire que ce que Andréane a vécu, mais je sais, pire que ce que j'ai vécu cette fois-ci. J'ai déjà nagé, fait que je connais ça, moi, les horaires de préliminaire et finale, puis j'en ai déjà vécu des compétitions que c'était vraiment atroce. Nous, il y a la préparation à la piste. Là. Souvent, c'était là qui était un petit peu plus où on pouvait se lever un peu plus tôt parce qu'il y a des horaires rotatifs là, d'entraînement là, pour utilisation de la piste, mais quand on a fait, disons, on a un 2 heures à la piste, 1 heure avant, puis le temps de revenir, fait que ça fait une grosse journée de 4 heures. Après ça, ça peut être plus tranquille. Souvent, la personne qui travaille le plus, c'est plus le physio. Il aime bien ça quand je fais d'autres choses que je joue au docteur. Ben, je suis tout le temps présent. Puis durant les journées de compétition, la plus grosse journée pour nous d'habitude, c'est les journées de contre-la-montre. Donc, ça commence tôt et ça finit un petit peu plus tard. Mais même cette fois-ci, c'était pas si pire. Là. On partait peut-être à 7h30 le matin pour aller. On avait un 45 minutes d'autobus à faire pour aller au Fuji Speedway. Puis on est peut-être revenu un petit peu avant l'heure du souper. Là. Ça n'a vraiment pas été trop difficile. Là. Je peux pas dire que je suis revenu de là très fatigué, là, mais ça a été quand même assez bien. J'étais pas trop. Puis j'avais pas d'autres tâches. Comme on était à l'extérieur, j'avais pas d'obligation à la clinique médicale du village. J'avais rien d'autre. Je m'occupais de mon petit groupe. Puis c'était pas mal ça.
Super ça. Il n'y avait pas de suivi de labo à faire au Japon, de ce que je comprends. Donc, écoutez, j'aimerais aussi vous entendre par rapport à une anecdote que vous avez vécue, que ce soit bon au Japon ou ailleurs. Vous avez parlé un peu, Dr Gariepi, du cas de dopage d'une équipe que j'ai pas retenu le nom, mais juste comment c'est géré à l'interne, en fait, parce que tu sais, nous, on reçoit ça à travers les médias, mais à l'interne, comment ça se passe, en fait? Je suis vraiment curieux d'entendre votre point là-dessus.
Ben, ça ne s'est pas trop parlé. C'est sûr que ça ne nous touchait pas directement. Ça touchait, bon, il y a, juste pour la petite histoire, celui qui est en charge du parasport en France, c'était notre ancien coordonnateur à Cyclisme Canada, parent. Donc, ça donnait que comme l'équipe de Polonais était disqualifiée, ben les Français montaient sur le podium. Donc, ça a été un petit peu plus de discuter avec notre ami Arnaud de tout ça, mais ça s'est quand même bien pris là. C'est pas. Puis avant Rio, il y avait un bon athlète australien qui avait été pris pour dopage avec l'EPO. Puis on n'a pas entendu parler. On est quand même assez amis avec les Australiens, les Néo-Zélandais, puis ça s'est pas trop discuté, puis ça n'a pas fait de bruit. Les gens sont assez discrets avec ça. Là. On va pas dire des mauvais mots aux gens. Là. C'est comme tu sais, les gens vont s'entraîner. T'sais, oui, il y a une équipe nationale, mais c'est un petit peu scindé. Les gens vont s'entraîner chacun de leur côté. Il y en a que le coach national va superviser, mais c'est leur coach personnel qu'ils entraînent. Il y a certaines choses qui peuvent être hors du contrôle de l'équipe nationale. Donc, à un moment donné, tu peux pas mettre le blâme sur autre personne que l'athlète et son entourage immédiat. Là.
Puis sans rentrer dans les détails, j'imagine que comment les athlètes se procurent de l'EPO ou d'autres produits dopants? J'imagine que c'est super singulier à chaque situation, mais est-ce qu'il y a des médecins parfois qui sont blâmés pour des situations comme ça?
Philippe, tu es supposé répondre que tu ne sais pas comment les gens peuvent se procurer.
Je sais pas. Non, ben c'est ça, je ne sais pas. J'ai aucune idée. On était en Italie en compétition, puis le matin, en se levant, il y a déjà des gens à la cafétéria de l'hôtel, au restaurant d'hôtel pour le petit déjeuner, puis ils disaient à les Blacks, « Hey, notre camion vient d'arriver. » Il y avait un camion, puis sur le trailer en arrière, c'était marqué « EPO Transport ». Fait que c'était quand même assez... Je l'ai pris en photo, je trouvais ça quand même assez comique, là. Mais... honnêtement, je ne sais pas comment il se procure.
super, merci. Maintenant, vous, Dr Bourgeois, avez-vous une anecdote aussi croustillante? C'est sûr que la barre est quand même haute.
Voilà, c'est ça. Moi, en fait, je ne sais pas, Philippe, ce que je l'ai partagé, moi, d'une façon un peu... je ne sais pas encore comment je me suis retrouvée à côté du podium pendant la remise de médaille d'une de mes athlètes. Elle avait été sélectionnée justement pour dopage, mais pour un contrôle là, qu'on s'attendait à... En fait, c'est quelque chose qu'on vit souvent avec nos athlètes. le protocole pour nous avec paranatation, c'est qu'ils soient toujours accompagnés. Probablement, j'ai des mineurs dans l'équipe, puis on veut pas non plus que les gens se retrouvent avec une autre langue, avec l'anxiété de la performance, avec tout ce qu'ils viennent de vivre, de se retrouver seuls. Fait que moi, je les accompagne dans ce processus-là. Fait que souvent, moi, ce que je fais, c'est que je suis le chaperon. Fait que dès qu'ils sont pigés au hasard pour un contrôle antidopage, il y a un chaperon de WADA qui va les suivre dans leur processus. T'sais, ils ont le droit de se changer, ils ont le droit d'aller se laver. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui les suit dans tout temps, tant qu'ils ne fournissent pas l'échantillon d'urine. Donc, moi, je les suis également. Puis, mon athlète s'est retrouvé à recevoir une médaille. Donc, je la suis dans la chambre d'appel pour les médailles en me disant, ben, le chaperon est là. Puis le monsieur qui est responsable, comme il y a des athlètes para qui avaient de la misère à se mettre la médaille eux-mêmes. Merci, Philippe. Mais comme il y a des athlètes qui ont de la misère, mais des fois, il y avait quelqu'un qui les accompagnait. Fait que moi, ils m'ont demandé si j'accompagnais pour lui mettre la médaille. Je dis, ben non, elle est capable, mais je suis le chaperon. Fait que clairement, il y a eu un problème de communication, de langue avec le monsieur, gentil monsieur qui s'occupait de la gestion de la chambre d'appel. Fait qu'il m'a poussé pour que je me retrouve sur le podium pendant qu'elle recevait sa médaille. Donc, je suis pas sur les photos officielles, mais ma manager a gentiment pris la photo où je me retrouve à quelques pas du podium pendant qu'elle reçoit sa médaille. Parce que je trouvais quand même une belle expérience avec cette athlète qui était sa première médaille olympique. Là.
C'est un peu moins d'entraînement à être chaperon que tout le processus d'athlète.
Ouais, mais c'est parfait, ça me convient.
C'est le même résultat, c'est parfait.
Et juste pour faire du pouce un peu là, sur le thème de dopage, quand on pense au dopage, là, on pense souvent là, à l'EPO ou tous les produits injectables variants. Mais avez-vous déjà été là, en contact avec des gens là, qui utiliseraient le dopage de façon plus... En parasport, des fois, on entend les gens là, qui se feraient du mal ou qui pourraient s'induire des blessures pour faire une crise autonomique puis essayer d'augmenter leur fréquence cardiaque puis augmenter leur capacité à performer dans leur sport.
Moi, je ne l'ai jamais vu, donc je ne peux pas vraiment me prononcer pour ça. Moi, ce que je trouve un peu plus difficile ou particulier à gérer, en fait, c'est qu'avec Boccia, on le vit différemment. T'sais, j'ai des gens avec différentes conditions, dont, en fait, un avec une dystrophie musculaire qui se retrouvait avec une insuffisance cardiaque, mais qu'il a fallu passer avec tout le protocole pour la prescription de l'aspironolactone, qui est quand même un médicament qui est reconnu pour l'insuffisance cardiaque qui peut aller avec ça. Fait que c'est tout des procédures que eux étaient un peu moins familiers de par le fait que il y a une condition médicale qui requiert ce médicament-là. Fait que de tout passer à travers ça, c'était quand même un peu différent. Mais fait que de devoir expliquer, oui, mais pour certains qui n'auraient pas cette condition-là, c'est un produit dopant. Fait que de tout expliquer ces nuances-là, ces particularités, je pense que c'est important qu'il y ait du contrôle antidopage, mais on dirait que je trouvais que c'était quand même différent de le vivre dans ce contexte-là où c'est quand même essentiel pour sa survie à long terme, ce patient-là, d'avoir ce médicament-là.
C'est quoi, c'est le CCES qui buguait pour l'AUT?
Oui, fait, longue histoire, là, mais il a testé positif parce qu'il avait oublié de le mentionner.
Ah, OK.
Fait que ça a été un peu un rush de dernière minute. Ouais. C'est juste que c'est un médicament qui, personne ne s'est questionné compte tenu que c'était vraiment prescrit dans le but pour une insuffisance cardiaque modérée à sévère. Là.
Mm-hmm. OK. J'ai fallu faire la demande en urgence et non de façon en bonne et due forme.
Okay. Ça, plaisir.
Sinon, aviez-vous des exemples concrets de blessures dans lesquelles vous avez dû intervenir, là, que ce soit sur le field ou off the field, en parasport?
Je suis humide où est-ce qu'il y a une problématique, une côte, une courbe, là, comme cette fois-ci. Pendant 2 jours sous la pluie, il y a une chance qu'il y avait un petit toit, là, mais j'étais sur le bord du circuit. C'est un petit îlot toilette et salle de repos. Là. Donc, j'étais là parce qu'il y avait une descente et il tournait 90 degrés dans un tunnel avec la pluie. Donc, j'ai passé une bonne journée là, puis l'autre journée, le matin, ça s'est fait, puis l'après-midi a été scindé en deux parce qu'il a fallu que je retourne au pit parce que j'avais une athlète qui était tombée puis qui s'était blessée. Donc, elle avait des éraflures de sa chute et possiblement une problématique de coude qui s'est avérée là. C'était la veille de notre départ, donc des fois, il faut prendre des décisions de dire, bon, est-ce que je vais à l'hôpital pour faire tel ou tel test? Est-ce que ça va changer quelque chose ou on peut temporiser les choses et que quand elle sera de retour à la maison, elle ira faire les tests qui devraient être faits.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé là, d'avoir un haut risque de fracture, par exemple, quand il y a un crash en vélo et que vous devez amener un des paracyclistes à l'hôpital dans un pays étranger?
Oui, ben j'ai vu qu'en Virginie, aux États-Unis, une salle de CT scan, il n'y en a pas deux, mais il y en a 10 avec un îlot central. Puis il y a même des scans dédiés en pédiatrie parce qu'il y a des petits animaux sur le plafond. Et fait que je me suis promené. Moi, je suis déjà allé en Virginie, en Italie, en Suisse. Ah, c'est pas mal les hôpitaux étrangers que j'ai visités. Là. Heureusement, c'est jamais rien de trop grave. Les choses plus importantes, ils font ça. Moi, mon contrat, je vais aux championnats mondiaux. Je vais à la piste, puis je vais sur la route. Puis il y a quand même des Coupes du monde qui, d'habitude, je ne participe pas à ça. Puis c'est souvent là qu'ils font les pires affaires. Ils finissent par... En tout cas, je suis des fois, le dernier mondiaux, je n'étais pas allé à cause de la COVID et tout ça, mais j'ai géré des choses à distance, là, à l'aéroport. Hey, il se passe telle affaire, il y a mal au tel. En tout cas, fait que on est en chez moi, puis je dis bon, ben, faut aller à la clinique de l'aéroport pour commencer, pour être sûr que tout est correct, qu'il n'y a pas un antibiotique qui pourrait être commencé. Puis après ça, vous verrez un coup atterri à l'autre endroit. Là.
Puis vous, Dr Bourgeois, quel genre de blessure avez-vous eu à gérer là, pendant les compétitions ou à l'extérieur des compétitions?
Je vais dire, hors compétition, j'ai beaucoup de blessures de surutilisation qui viennent chez comme tout nageur qui abuse un petit peu. Fait que beaucoup des épaules, au niveau des hanches, c'est sûr que c'est en fonction un peu de leurs conditions préalables. Sinon, je te dirais, sur le terrain, si m'est arrivé une fois, c'est une syncope post-course. Une composante d'asthme, un peu de composante d'hyperventilation, fait que l'athlète s'est effondré devant les médias, carrément là, une perte de conscience de quelques secondes, fait que c'était une gestion un peu plus rapide, surtout que moi je suis proche, mais je suis pas directement à la sortie de la piscine, là. Fait que c'est là où ça a fallu courir un petit peu plus vite, mais sinon c'est ça, c'est plus, je veux dire, natation, j'ai moins de cas aussi drastique que des accidents de vélo que Philippe peut avoir. Là. Fait que c'est sûr que ça va être beaucoup plus de la prévention des blessures avant. Ou en temps normal, toute gestion d'asthme, de rhume qui va avoir un impact au niveau de leur performance. C'est beaucoup ça qui va stresser les athlètes aussi, d'avoir l'impression qu'ils respirent pas bien. Puis traditionnellement, on le sait, là, quand on voyage, on est un peu stressé. Souvent, hors des compétitions, moi, je vais avoir, je sais pas Philippe, mais moi, en général, il y a au moins un à deux rhumes qui vont se déclarer. Donc, chez des athlètes qui sont beaucoup dans la piscine, donc il y a beaucoup d'asthmatiques qui peuvent aller un peu à la limite de la bronchite. Donc, c'est beaucoup cette gestion-là. Avec l'anxiété de ne pas se sentir bien avant une grande compétition qui va toujours exacerber des symptômes qui vont faire en sorte qu'on va se retrouver avec des grippes d'homme juste avant une compétition.
Et vous dites là, que vous avez souvent affaire à des blessures de surutilisation, mais est-ce que ça arrive des fois là, que vous devez prendre la décision déchirante si l'athlète va pouvoir participer à sa compétition ou si on va plutôt opter pour l'athlète remplaçant?
En fait, ça m'est arrivé cet été, mais sur une blessure traumatique. Une blessure traumatique s'est passée en juin environ. Nous, on partait pour en camp. En fait, on avait une date limite là, pour si on voulait remplacer l'athlète. Donc, la décision, on a dû la prendre fin juillet. Donc, ça nous laissait peu de temps. C'est un trauma quand même que l'athlète avait vécu, mais qu'on a dû prendre la décision, c'est ça, quand l'athlète se sentait plus ou moins prêt à la prendre. Donc, on a un peu forcé la décision de dire, ben, je pense pas qu'en deux semaines, on va être capable de se rendre à un niveau acceptable pour aller au jeu. Donc, on a dû faire, on a eu la chance de pouvoir échanger, donc amener une autre athlète, mais reste que c'était une personne qu'on voyait médaillée. Donc, c'est là où ça va être un petit peu plus déchirant comme choix. Mais l'athlète a très bien compris par la suite, là.
Ouais, ça doit absolument pas être des décisions faciles à prendre.
Puis, j'aimerais aussi. Juste pour terminer avec les pathologies ou les types de blessures que vous avez eu à gérer, là, on entendait beaucoup dans les médias aussi là, les enjeux de santé mentale à Tokyo, peut-être plus aux Jeux olympiques. Je ne sais pas s'il y en avait eu aux Jeux paralympiques aussi, mais est-ce que c'est une sphère dont vous avez eu à aborder avec les athlètes, là, soit c'est l'anxiété ou soit là, les troubles de les troubles reliés au stress de performance?
Nous, on a eu une situation qu'on a dû gérer, un des athlètes, là, mais ça n'a pas, en tout cas, il a passé dans les médias, il en a parlé, mais je ne veux pas aller dans les détails, là, mais ça a été un petit peu plus difficile. Pas un cas comme Simone Biles, mais quand même, ça a eu un impact sur sa participation au jeu. Là, donc, mais pour le reste, ça a quand même bien été là, pour mon groupe.
Super. C'est une bonne chose, en fait, que ça soit de plus en plus démocratisé puis que ça soit accepté puis que, en fait, on en parle davantage, assurément. J'aimerais vous entendre aussi, chacun sur, ça a été quoi votre préparation pour aller aux Jeux paralympiques? De ce que je comprends, vous connaissiez déjà bien les athlètes. Est-ce que vous aviez dû faire comme une espèce de retour sur les médicaments, s'assurer qu'il n'y ait pas de médicaments qui peuvent être pris pour du dopage? Ou c'était quoi vos devoirs finalement avant les Jeux paralympiques?
Ben, personnellement, c'est un travail qui est un peu ongoing, par exemple. On essaie de ne pas attendre à la dernière minute pour le faire. Donc, pour moi, les athlètes, surtout, tu sais, moi, il y a vraiment les deux, là, ceux qui sont au centre d'entraînement à Montréal, où majoritairement, c'est moi qui vont voir comme médecin en tout temps. Fait que c'est sûr que je vais m'assurer de ne pas prescrire quelque chose qui n'aurait pas le droit. Pour les athlètes, cette année aussi, je ne sais pas, Philippe, tu pourras commenter si c'était comme ça tout le temps, mais tout le monde, l'équipe qui était amenée par le Canada au jeu, devait remplir un formulaire par rapport à ça. Puis oui, nous demandait, le Dr Marshall, qui était le CMO des Jeux, nous demandait de confirmer pour nos équipes qu'il n'y avait effectivement rien de problématique ou rien qui pouvait avoir rapport. Il y avait bien sûr vaccination COVID aussi qu'on nous demandait de confirmer. Ce n'était pas essentiel pour voyager, mais reste qu'il nous demandait de vérifier, s'assurer que qu'on était capable de voir au niveau des doses, au niveau du transport, s'il y avait quelque chose qui était différent. Fait que c'est sûr de connaître les athlètes. Moi, personnellement, j'étais avec l'équipe de paranatation depuis 2019. Il y a une athlète que j'avais pas rencontrée de par une pause qu'elle avait prise dans sa carrière dans les années que j'étais là avant les Jeux. Donc, j'avais organisé des rencontres avec elle. Puis, on avait aussi, nous, un camp d'entraînement de 2 semaines et demie avant le départ à Vancouver pour se familiariser un peu, reprendre contact. Fait que c'est là aussi que moi, j'ai pu faire des petits updates. On avait décidé de faire des tests antigéniques aux 2 jours dans le camp pour s'assurer qu'on pouvait avoir. Fait que ça me laissait 10 à 15 minutes d'attendre des résultats avec les athlètes et même les coachs. Donc, ça me laissait un peu de moment, un à un, pour voir s'il y avait des ajouts, s'il y avait des suivis, reconnecter un peu aussi avec les athlètes, là, parce que des fois, c'est difficile pour eux, à la dernière minute, de rechanger. Est-ce que athlètes para, il y en a qui ont vécu des expériences avec des médecins où ça n'a pas nécessairement été bien géré, le fait qu'ils faisaient du sport dans d'autres conditions. Fait que pour moi, de reconnecter avec eux, juste leur parler de d'autres choses, c'était un 15 minutes que je prenais aussi pour ça, pour juste redévelopper une relation, un lien thérapeutique s'il se passait quelque chose.
Pour ce que comme disait Andréane, là, à chaque jeu, on doit remplir un dossier médical qui permet d'avoir la base pour l'équipe, dont exemple un sport qui ne serait pas couvert par leur médecin personnel. Ben, au moins, l'équipe médicale de l'équipe canadienne est au courant, puis c'est qu'est-ce que les gens prennent comme médication ou si on a une problématique X. Donc, ça nous permet de reviser. Là. Bon, moi, ma gang, je la connais depuis un bon bout de temps, là, fait que c'est quand même assez facile de refaire ça. Puis, de façon générale, avant chaque projet où je suis présent, je passe tout le temps du temps avec chaque athlète pour justement reviser des choses. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses parce que les athlètes sont quand même assez cachetiers. Je dirais que 90 % du temps, les problématiques médicales, je l'ai par le coach qui me dit « Ah, un tel, telle affaire, peux-tu l'appeler? Peux-tu vérifier ça? » En tout cas, malgré que je leur passe le message de me le dire. Puis je leur dis tout le temps, même si vous pensez que c'est niaiseux, là, ben, moi, je vais vous le dire, c'est niaiseux, mais c'est moi qui vais le dire. Mais sinon, on s'en parle. Donc, au début de chaque projet, je passe du temps avec chaque athlète pour justement et passer des messages. Là, les gens, ils sont beaux connaître ça, voir, regarder leur, comme là, c'est les sports à l'extérieur, la chaleur, leur stratégie d'hydratation, etc. Il y en a qui ont des problématiques qui peuvent pas, c'est plus difficile de prendre une bouteille sur le bidon, sur le rack, puis ont-tu leur sac d'hydratation, comment ils font ça. Donc, juste, ça a été fait avec les coachs puis avec d'autres, mais je repasse le message puis je vais être sûr que tout est bien clair et tout est organisé. Là.
Ça vient-tu aussi un peu du fait que peut-être les athlètes ont peur que vous preniez une décision en ce sens que c'est avec cette blessure-là ou cette condition-là, c'est pas possible de faire la compétition ou le voyage? Est-ce qu'il y a de ça aussi un peu dans leur réflexion?
Il y a peut-être un peu le vélo. Pour le vélo, là, la moyenne d'âge est quand même pas mal élevé. Hein? J'ai des gens qui ont des jobs à temps plein, qui ont 40 ans, 45 ans. Donc, les gens sont plus âgés, ont peut-être des plis qu'ils ont gardés, puis on a eu de la difficulté à passer le message qu'ils sont des athlètes de haut niveau. Ben, si t'es en vélo, t'es penché, t'as mal au cou, t'es souvent sans raide, etc. Il faut que tu t'entretiennes, c'est comme ta voiture. Donc, passer le message de faire ça avant d'arriver à un projet où là, ils sont bien, ils sont arrivés au projet, puis le physio, il est là à temps plein. Fait que, hey, let's go, paf! Les premiers jours, là, ils travaillent pour les remettre d'aplomb, là, alors que ça pourrait être un petit peu plus facile s'ils s'entretenaient. Là. Donc, il y a des plis, il y a des idées préconçues, il y a toutes sortes de petites choses qui font que... Bon, peut-être la peur de dire non, mais c'est pas arrivé souvent. Puis les décisions de pas participer ont souvent été prises soit avant de partir ou rarement sur le moment de dire, ben là, il y en avait une qui faisait de l'hypotension orthostatique pas mal et importante. Le moment donné, on dit, ben, ça fait, là, tu vas pas courir, tu vas pas te ramasser après ta course avec ton pooling périphérique puis ton hypotension orthostatique que tu vas, bon, non, quand tu vas te reposer, tu vas te mettre les pattes en l'air et on est tranquille.
Okay. Super intéressant. Donc, on arrive déjà près de la fin, là, mais juste pour poser une dernière question avant qu'on prenne les questions de nos spectateurs. Comment vous voyez la suite des choses? Là, vous avez participé au grand jeu. Avez-vous l'intention de répéter l'expérience une autre fois ou comment s'enligne là, la suite de votre carrière en médecine du sport?
Moi, c'est sûr que j'aimerais ça. Là. C'est une super belle gang. J'ai vraiment découvert, j'ai développé des liens aussi avec cette équipe-là. Fait que c'est sûr que c'est des choses que, oui, j'aimerais continuer à faire. C'est une expérience, je pense que de continuer à le vivre, de continuer à vivre ces expériences-là. Tu sais, on a parlé des expériences médicales, mais c'est des expériences humaines aussi. Tu sais, j'ai une de mes jeunes athlètes, elle avait 13 ans à Rio. Ça s'était bien passé, compte tenu que c'était une première expérience, mais de l'avoir médaillée, de voir le moment et l'effort qu'elle a mis en 2000, tu sais, pour gagner une médaille d'or en 2018, tu sais, de vivre ces moments-là avec eux. Pour moi, c'est ça aussi. C'est oui, c'est le sportif, mais c'est aussi tout ce qui vient avec aussi d'expériences de gang qu'on retrouve. Fait que, oui, moi, c'est quelque chose que j'aimerais continuer. Là.
De même, c'est sûr que bon, mon contrat n'a pas été renouvelé, mais on s'enlignait vers 2024, là, donc ça reste à voir. Dernièrement, on a eu les Call for Games que j'ai regardé. J'aurais bien aimé aller au jeu Jeux du Commonwealth, mais je reviendrai la veille du début de mes championnats mondiaux à Beautiful Bécomo. Fait que c'est peut-être pas.
Tu vois, moi l'année prochaine, c'est au Portugal, les championnats du monde.
Bon, ben, en tout cas, en mars et avril, on s'en va en Europe, je ne sais pas où, là, mais mon premier projet, c'était à Bécomo. Je trouvais ça pas mal sexy comme voyage. Il y a des endroits un petit peu plus plaisants. Je suis allé quand même deux fois à Rio, hein. Faut le faire. Puis, ben, c'est ça. Oui, je veux continuer. Puis, c'est sûr que des fois, là, comme quand je suis allé aux Jeux olympiques de la jeunesse, là, si on parlait d'horaire, là, cette fois-là, j'étais le seul médecin. Puis, moi, je commençais, j'étais dans le bureau du comité olympique canadien. Je dormais là. Fait qu'on ouvrait la porte à 7h30. L'autre gars qui était dans la chambre du comité, il y avait une réunion. Fait que c'est moi qui tenais le bureau jusqu'à temps qu'il y ait du monde qui arrive. Puis après ça, on couvrait les sports. Puis à 11h, ben, on mettait un pied dans la porte et on se couchait. Fait que c'était comme non-stop, mais c'était le fun pareil. À cet endroit-là, c'était 15-18 ans. Tu dis, ouais, il va peut-être en avoir des têtes folles. Non, il était super. Puis atmosphère, bon enfant, des compétitions, là, c'était vraiment. Pas mal, une belle expérience aussi.
Super. Merci beaucoup pour vos réponses. C'était des réponses super généreuses. Maintenant, on voudrait donner l'espace un peu à nos auditeurs, aux auditrices finalement. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro, puis allez-y.
Moi, il y avait la question sur la demande pour l'approbation des médicaments. Plusieurs athlètes passent par le Comité canadien d'éthique dans le sport, le CCES, pour faire une demande d'usage thérapeutique. Il y a certaines personnes qui sont plus par leur fédération internationale, là, certains athlètes de plus haut niveau qui ont pu performer. Là, comme dans mon groupe, il y en a un, c'est plus par l'Union cycliste internationale, là, mais la majorité, c'est par le CCES. Là, je ne sais pas, Andréane, de ta gang, là.
Moi, c'est la même chose. Excuse-moi, je suis beaucoup trop distraite par Luc qui vient d'ouvrir sa caméra et sa moustache. J'ai un petit peu de misère à répondre, mais non, la plupart de mes athlètes vont passer par le CCES également. Là, c'est vraiment plus par là qu'on va avoir les autorisations.
C'est pour ça que j'ai pas ouvert ma caméra avant, pas de distraire.
C'est effectivement très distrayant. Et...
Merci à vous deux pour le partage. C'était super agréable, super intéressant.
Merci beaucoup. Franchement, c'était vraiment apprécié. On vous souhaite bonne continuité dans votre carrière.
Oui, je pense qu'il y avait une question.
Oui, je m'excuse. J'allais dire, mais merci beaucoup pour les présentations aujourd'hui. C'était super intéressant, effectivement. On en apprend beaucoup. Je me demandais, pour ma part, moi, je suis résidente en médecine d'urgence, puis je me demandais s'il y a des opportunités pour les résidents au niveau de l'implication là, au niveau paralympique, est-ce qu'il y a des possibilités de venir faire de l'observation ou de commencer à s'impliquer dans ce domaine-là pour voir s'il y a des opportunités futures? C'est ça ma question.
Je dirais probablement, moi, le défi sportif, ben le défi, je ne sais pas si c'est encore sportif ou en vélo, et longue, là, on changeait un peu le nom, là, ce serait peut-être ce qui se rapprochait le plus, parce que c'est certain que, comme quand on va en compétition, ben c'est Cyclisme Canada qui paye les dépenses, donc je ne suis pas sûr, avec des budgets dans les sports qui sont quand même limités, de dire, hey, j'aurais quelqu'un qui aimerait ça venir voir comment ça se passe. Je ne suis pas sûr que ça serait bien facile, là, mais s'il y a quelque chose au Québec, ben ce serait peut-être le défi sportif là, qui habituellement, là, fin mai, début juin, si je ne me trompe pas.
Moi, je l'avais fait, en fait, avec le médecin pour le défi sportif. C'est sûr qu'il me demandait surtout être de garde, en fait, là, pour voir les seuls qu'on était sur place. Il y avait une série sur le hockey luge Next Gen où il demandait d'avoir quelqu'un sur place à ce moment-là. Je vais comme être un peu plate. Moi, je sais qu'il y a des résidents quand le stage au CEPSUM avec nous, il y a beaucoup de médecins qui font CEPSUM et INS, fait que des fois, ils peuvent partager. Moi, des fois, je sais que j'ai eu des résidents de CEPSUM qui étaient avec moi à l'INS où je me retrouvais à avoir des athlètes paras à ce moment-là, mais la difficulté, c'est de garantir l'exposition aux paras ou même pour le philo en médecine sportive, on est un peu « on a un peu de misère parce que de garantir l'exposition. Tu sais, Luc le sait aussi, là, on n'a pas une capacité d'avoir un bassin pour dire, ben, je vais avoir des athlètes qui vont avoir besoin d'être vus à ce moment-là. Tu sais, je veux dire, on a beau voir un athlète para, s'il a mal à l'oreille parce qu'il y a une étude externe, le para, c'est pas vraiment ça qui est la différence. Et c'est sûr que moi, justement, je vais en profiter pour un peu en parler tout simplement. Je sais que le SIVA aussi organise une conférence, je pense que c'est le 27 novembre, qui est le sport en fauteuil. Ça peut être intéressant aussi à ce moment-là, parce que des fois, ça permet de l'exposition. Je sais que des fois, ils organisent des tournois. Tu sais, je pense entre autres à rugby en fauteuil. Quelqu'un qui serait prêt à faire du bénévolat, c'est sûr qu'ils vont être contents d'avoir des gens. Donc, c'est un peu d'avoir ces organismes-là. Je sais qu'il y a Parasport Québec aussi. Des fois, tu sais, d'avoir quelqu'un qui est capable de les mettre en lien, fait des contacts avec ces organismes-là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui pourrait. C'est sûr que comme résident, des fois, ça peut être plus difficile, le fait de pas avoir de supervision, d'avoir quelque chose d'organisé, je sais pas trop, mais sinon, tu sais, du bénévolat, d'être en contact avec le sport, c'est un peu comme ça qu'on développe les contacts. Comme Philippe disait, c'est un contact qui l'a amené vers là, fait que d'être en contact, je sais que le coach de rugby en fauteuil, il est à Montréal, fait que tous ces moments-là, ça peut être des contacts futurs à développer, là.
Merci beaucoup.
Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne me ferais pas avoir deux fois à ce moment-là.
Je pense que ça fait un peu le tour, là, mais je répète moi aussi, là, merci énormément pour votre participation, là, Dr Bourgeois, Dr Garipi. C'est super apprécié au nom de toute l'OQMSA. Merci d'aussi bien représenter la médecine du sport au Québec et au Canada. Vous êtes très inspirant pour nous tous.
Tout à fait. Puis je veux juste terminer en souhaitant à Dr Bourgeois de remonter sur le podium bientôt. On va suivre ça avec grand intérêt.
Mais celle-là, ça va être dur à battre quand même. Je ne suis pas sûr.
Hey, ça me donne des idées pour le 9 décembre.
Hey, merci à tout le monde qui ont assisté à la présentation. Merci. Bonne fin de soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.